C'est l'écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence. Écho du silence.
Bienvenue sur l'écho du silence, le podcast qui met en lumière les communautés invisibilisées du territoire breton. Cette émission est dédiée aux femmes qui ont subi des violences. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie, la présidente et la fondatrice de l'association La Lanterne. Cet asso est dédié à l'écoute et au soutien des femmes touchées par des violences. Puis, par la suite, nous écouterons Flore, une bénéficiaire de l'association.
Je m'appelle Nathalie Kérébel, je suis fondatrice et présidente de l'association La Lanterne. C'est une association qui a été fondée en 2021, à la suite du Covid. Voilà. Quand il y a eu le Covid en France, moi j'étais en Angleterre, chez mon fils aîné, et on voit aux infos que les gens devaient rester enfermés chez eux, et là, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, mon Dieu, toutes ces femmes et ces enfants qui vont être enfermés avec leur agresseur. Ça a vraiment été ma première réaction. Quand j'ai réussi à rentrer en France, bon, je ne connaissais pas du tout le milieu associatif, donc j'ai cherché un peu sur les réseaux, j'ai contacté un collectif qui s'appelle Nous Toutes, et qui à l'époque était toujours, je ne vais pas dire dirigé, parce que je ne pense pas qu'elle aimerait ce terme-là, mais par Caroline Dehas. Voilà, c'était vraiment génial, bonne ambiance, enfin, très formateur. Et donc j'ai envoyé un petit message en disant « Bonjour, je m'appelle Nathalie Kérébel, je suis dans une petite ville du Finistère, il n'y a pas grand-chose comme asso, etc. Ou en tous les cas, je ne les connais pas, donc c'est qu'il n'y a pas eu de com. Est-ce que vous pourriez soit m'aider, soit me... » Voilà. Et je me suis retrouvée un petit peu parachutée chez nous toutes, comme ça, voilà. C'était chouette, sauf que ça ne me correspondait pas vraiment. Pas sur le principe, hein, parce que c'était vraiment extrêmement chouette, des belles interactions. Caroline Dehas faisait des formations en ligne qui étaient vraiment géniales. Mais ça ne me correspondait pas parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Il faut de tout et de tout le monde. Je ne suis pas du tout dans le jugement des gens qui le font parce qu'on en a besoin. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut aller dans la rue, manifester, etc. J'ai un peu essayé quand j'ai fondé La Lanterne. Ce n'est pas mon truc. Moi, je suis plus à l'aise à aller sensibiliser, à être au contact des jeunes qui vont me poser des questions, etc. Donc voilà, Caroline Dehas a quitté nous toutes, moi aussi. Et j'ai continué sur la lancée de La Lanterne. Donc avant de fonder l'association, j'avais bien conscience, parce que moi je suis une ancienne victime, ça date hein, vraiment de très 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 longtemps. Je vais très bien. Pour autant, pour l'avoir vécu il y a très longtemps, je connaissais les failles du système en fait. Fonder l'association, pour moi, c'était pas rien. D'une part, parce que j'avais connu ces années de douleur et de combat, ensuite. Et puis, parce que j'ai une formation en psychologie clinique et pathologique de l'UBO, pardon, de Brest. Et donc, je sais l'importance de l'accompagnement psychologique. Mes études étaient un petit peu loin derrière moi. Donc, avant de fonder l'asso, j'ai réenquillé des formations, replongé le nez dans les bouquins, etc. J'ai cherché d'autres formations supplémentaires. Donc, je me suis formée au psychotraumatisme, à la mémoire et donc à l'amnésie traumatique. Je me suis formée à l'hypnose ericksonienne, à l'EMDR, etc. Une fois que j'ai fait toutes ces formations-là, je suis allée présenter La Lanterne à Morlaix, Morlaix-Caux, enfin au réseau. Parce que ce qui pêchait dans le temps, ou à moins que ça soit pareil ailleurs, mais en tous les cas pas chez nous maintenant, c'était qu'on n'avait pas de réseau. Et le réseau, c'est super important. Il n'empêche que, comme le disait Flore tout à l'heure, je l'ai accueilli moi en premier rendez-vous et ensuite c'est moi qui ai fait son accompagnement. On essaye quand même un maximum au sein de La Lanterne, quand on reçoit quelqu'une, d'être celle qui va continuer à accompagner. Parce que ça évite à la personne de répéter son histoire, ça nous permet de vraiment le suivre le fil et l'évolution et nous d'avoir cette plasticité d'adaptation pour continuer à accompagner la personne. Je voulais vraiment créer un lieu qui soit sécurisant, où on puisse libérer la parole, où il n'y ait pas de jugement, où chacun ou chacune pouvait avancer à son rythme, et un petit cocon, quoi. Moi, je suis tout le temps à l'asso, 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24-24. Mais évidemment, les bénévoles, elles ont une vie perso à côté, elles ont un job, etc. Donc, c'est plutôt fluctuant. On a une dizaine de bénévoles, voilà. On est monté parfois jusqu'à une vingtaine. C'est chouette parce que plus on a de bénévoles, comme ils n'ont pas un temps énorme, plus on en a, moins elles ont besoin d'être présentes, en fait. Certaines vont être formées à l'accueil pour l'écoute des premiers rendez-vous. Ensuite, elles me font un petit topo, etc. Et puis, on voit et on accompagne. J'ai des bénévoles qui vont être plus dans l'accompagnement dit social. On a une bénévole qui est géniale, qui est art-thérapeute et qui, pour ce qui est du rapport au corps, est juste parfaite. Moi qui accompagne en thérapie les bénéficiaires, quand on arrive au rapport au corps, voilà, faut aussi avoir l'humilité de savoir qu'il y a des gens qui sont meilleurs que nous. Je les oriente à ce moment-là vers cette bénévole-là qui, voilà, que je respecte beaucoup pour son travail. On a aussi une bénévole qui est médecin, on a une bénévole qui est là pour accompagner à la réinsertion professionnelle, bilan de compétences, aide au CV, etc. On a un local. On vient de déménager, là, début janvier, on avait un petit local. On a un local qui est plus grand, plus spacieux. Et on travaille en réseau, énormément, vraiment beaucoup, beaucoup. On intervient dans les écoles, on fait des partenariats avec des clubs sportifs. Et ça fait vraiment partie de l'organisation, parce que ça fait aussi partie de l'accompagnement. Et puis, dans cette organisation, on essaye de quand même... Enfin, c'est même pas qu'on essaye, ça, on y arrive vraiment. C'est tellement agréable d'avoir de la souplesse, de l'humanité...
C'est l'écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Je suis une salariée à 3/4 temps. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 4 ans à plein temps, plus que plein temps, gratuitement. Ça, c'était une évidence, en fait. Si on voulait construire un truc solide, il fallait se donner à fond. Donc, effectivement, il y a quasiment 5 ans, j'ai parlé à mes deux derniers, en fait, qui vivent toujours avec moi. J'aurais dit, voilà, on continue à vivre chichement et en fondu d'assaut, en leur expliquant que le niveau de vie, il allait rester un petit peu râlé par la crête, etc. Et que je ne pouvais pas leur imposer non plus ces restrictions financières au niveau perso. Hein. Ils m'ont demandé, est-ce que ça peut éviter à des mamans de vivre ce que tu as vécu? J'ai dit, oui, on va essayer. Est-ce que ça peut éviter à des enfants de vivre ce qu'on a vécu? J'ai dit, oui, on va essayer. Et ils m'ont dit, bah, vas-y. Donc, j'ai passé 4 ans quand même à travailler de manière bénévole. Et donc là, je suis à 3/4 temps depuis le 1er avril 2025. Et c'est du ric-rac, en vrai. On est, ouais. C'est même pas un poste qui va peut-être durer, je sais pas.
Nathalie se montre claire. Il faut avoir du courage pour créer une association toute seule avec des enfants en bas âge. C'est quand même pas évident ni facile. Maintenant, elle va vous expliquer comment une personne en besoin est prise en charge lorsqu'elle pousse la porte de la lanterne.
Les missions d'association, j'ai envie de dire que c'est un trépied. Je ne sais pas si l'image va parler. C'est-à-dire qu'il y a l'accompagnement, d'une part, qui va être thérapeutique, d'autre part, un accompagnement social, et le troisième pôle, ça va être la sensibilisation, la lutte contre les violences, en fait. Voilà. Donc, l'accompagnement thérapeutique, il se fait de manière plutôt simple. Hein, quand la personne vient me voir en rendez-vous 1, elle me raconte... Je ne vais pas dire son histoire, elle me raconte ce qu'elle est prête à raconter. Voilà. Moi, dans ces cas-là, j'ai pas un cœur de pierre, mais je me positionne en tant que technicienne. Je prends les éléments, toc, 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 je connais un peu les schémas, etc. Donc, dans ma tête, je fais déjà un bilan en sachant quel chemin on va devoir prendre pour aider cette personne. À la fin de l'entretien, du premier rendez-vous, je dis, alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que vous me demanderiez de faire? Avec cette réponse-là, je commence à construire l'accompagnement. Donc l'accompagnement thérapeutique, l'accompagnement social, qui vont souvent de pair. Hein. Et voilà, et l'accompagnement thérapeutique, quand je parle d'accompagnement, je ne parle pas de thérapie exprès, parce que je pense que quand une victime est sur le chemin de la séparation, même quand on est séparé physiquement, on n'est pas encore séparé dans sa tête. Hein. Il y a des...
Après avoir présenté son
l'emprise ne s'arrête pas avec l'éloignement géographique. Donc il y a toujours cette... Voilà, quand on doit passer au tribunal, quand voilà, tout ça, on ne va pas se réparer de quelque chose qui n'a pas... d'une histoire qui n'est pas terminée, en fait. Donc l'accompagnement est là. L'image que je prends, c'est... Vous êtes sur le champ de bataille. C'est vous qui vous battez. C'est pas moi. Moi, je suis qu'un instrument, en fait. Et je suis qu'un instrument. Et cette image-là, vous êtes sur le champ de bataille. Moi, je suis l'infirmière, là, avec ma petite trousse, avec mon EMDR, mon hypnose, ma psycho, enfin, tout ça. Et je regarde. Et de temps en temps, quand la bénéficiaire se retourne vers moi, quand elle est sur le champ de bataille, je lui montre par où aller. Elle y va, c'est bien. Elle y va pas, elle prend un autre chemin, c'est pas grave. Je continue à la regarder et à adapter mes stratégies. À titre d'exemple, les stratégies, ça va être un passage au tribunal, je tremble, j'allais dire je suis comme ça, mais on ne va pas me voir. je tremble, je suis vraiment stressée. Va se jouer là, à ce moment-là, la garde des enfants. Monsieur, forcément, si c'est monsieur qui est l'agresseur, monsieur va dire que je suis folle, que je me maîtrise pas, etc. Et moi, j'ai tellement peur qu'au tribunal, c'est sûr, je vais être mutique ou alors je vais me mettre à éclater en sanglots. Enfin, je vais pas être bien, quoi. Et j'ai peur que le juge pense que, effectivement, ça vienne confirmer ce qu'on a dit de moi, que je suis pas dans le contrôle, que voilà. Et bien avant ça, on va pouvoir faire une séance d'hypnose pour que la personne, on fait un petit ancrage, etc., pour qu'elle arrive plutôt calme, qu'elle puisse s'exprimer. Ça, c'est de l'accompagnement, tout ça. En fait, on aide les gens à garder la tête hors de l'eau et à continuer à naviguer. Une fois que tout ça s'est terminé, on propose la thérapie. Voilà. Alors, elles le font, elles le font pas. Elles le font pas, elles peuvent revenir 6 mois après. Parfois, on a un petit peu envie de zapper tout ça. Ça, c'est l'accompagnement thérapeutique. Et puis, l'accompagnement social, eh ben, ça va être accompagné chez l'avocate, ça va être aider à remplir des dossiers d'aide juridictionnelle, d'aide au logement. Ça va être présente lors du passage de bras, quand il n'y a pas encore eu de jugement, qu'on doit remettre l'enfant un week-end sur deux et que la personne en face en profite pour nous faire peur, nous effrayer, etc. Juste une présence, hein, sans quoi que ce soit plus, ça calme. Voilà, puis ça peut être aussi des femmes qui vont faire appel à nous parce qu'elles étaient en couple, que tout se passait bien, puis il y a du désamour, donc on se sépare. Et puis là, tout d'un coup, on se retrouve face à un futur ex-conjoint qui ne comprend pas ce qui se passe, qui est en colère et qui devient un petit peu couillon, quoi. Donc là, eh ben, notre rôle, c'est de faire un petit peu de la médiation. Et puis là, du coup, on évite les violences. Voilà. Et puis après, ben, lutter contre les violences, ça va être les sensibilisations dans les lycées, les collèges. On intervient à l'ITES, dans les entreprises, sur les forums, partout où on veut de nous. Tout est absolument gratuit. C'est vraiment très important. Je vous disais que je suis de formation psychoclinique et patho. Et je vous disais aussi que j'avais été victime. Moi, quand j'ai été victime, mes enfants, ils étaient en maternelle. Et je me suis échappée un week-end avec 4 enfants sous le bras. Avec rien, en fait. Absolument rien. J'ai attendu qu'ils soient de garde un week-end. Et je ne savais jamais à l'avance, forcément, on ne me prévenait pas, pour m'échapper avec mes 4 enfants sous le bras. Donc financièrement, je n'avais absolument rien. Il me restait quand même des souvenirs que la psycho, c'était super important. Donc, j'ai fait 3 choses qui nous ont vraiment beaucoup aidés. Et une de ces 3 choses-là, ça a été tout de suite de faire mes enfants consulter. Voilà. Et je sais, par expérience, et puis tout le monde le sait de toute façon, que quand on s'en va comme ça, financièrement, c'est pas la panacée. En fait, c'est hyper compliqué. Et on sait aussi que la santé mentale en France, c'est pas le premier truc qui vient à l'esprit des gens. Et qu'on va plus facilement se dire, tiens, je vais aller mettre tel argent, je vais faire plaisir aux enfants, faire un petit McDo, les amener au ciné. Enfin, et c'est très bien, et c'est vraiment la bienveillance envers ses enfants. Sauf qu'il est toujours plus facile d'accompagner un enfant que de réparer un adulte. Sauf que je ne trouve pas juste que parce qu'on n'a pas les moyens, on ne puisse pas être accompagné thérapeutiquement. Ce n'est pas juste, en fait. Et moi, je n'aime pas l'injustice. Donc voilà, je tiens vraiment à ce que tout soit offert au sein de la lanterne.
Proposer un service gratuit est vraiment d'une aide cruciale. Mais ce projet se heurte aujourd'hui à des difficultés. L'action de la lanterne s'inscrit dans un climat social qui se tend, avec notamment une montée des comportements masculinistes qu'elle est amenée à ressentir.
Alors, les difficultés, elles sont multiples. D'abord, et je le disais tout à l'heure, quand on parlait de salariat, le manque de moyens. Voilà, que ce soit financier, humain, hein, je vous disais aussi que les bénévoles, ça va, ça vient et c'est normal. J'ai des bénévoles, j'en pense à une en particulier que je regrette énormément parce qu'elle s'est éloignée géographiquement. On fait sa vie, on se met en couple, on travaille ailleurs, etc. Et voilà, donc les moyens humains, ça manque. Matériel aussi, parce qu'on a plein de projets, mais il faut pouvoir s'équiper. Donc, mais ça vient petit à petit. C'est aussi un apprentissage de la patience. Hein. En tous les cas, le nerf de la guerre, ça reste quand même l'argent. On ne va pas se mentir. Voilà. Et puis l'association, eh ben, on reçoit quand même de plus en plus de monde et on fait de plus en plus de choses. Donc ben, les besoins, ils augmentent et les ressources, elles ne suivent pas forcément. Voilà. Une grosse difficulté qui, selon moi, par contre, n'est pas... Enfin là, je suis un petit peu moins patiente, mais du coup, je me dis que ça va être peut-être à moi de trouver des... C'est un objectif 2026, de trouver des solutions pour y remédier. C'est la méconnaissance des mécanismes de l'emprise et de la violence psychologique. La méconnaissance de ce qu'est l'amnésie traumatique. Toutes ces choses-là, Alors moi, c'est facile, hein, je suis formée à ça. J'avais déjà des bases estudiantines en psycho, donc finalement, et puis j'avais la pratique en plus. C'était pas si compliqué.
Crucial. Pour autant, mais ce projet se heurte aujourd'hui à des difficultés.
Je me suis aperçue en l'expliquant aux bénéficiaires, c'est très important d'expliquer ce que c'est la reproduction des schémas, ce que c'est l'amnésie traumatique, parce que ça déculpabilise. Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi, les mots que j'emploie quand je suis en séance ou en rendez-vous, ce sont pas les mêmes que ceux que j'ai lus quand je me suis formée, évidemment. Donc, je pense qu'il faudrait effectivement, l'idée est en train de naître là. C'est bien qu'on échange, que je fasse des petits topos, voilà, des petits PDF ou quoi que je mette à disposition et que tout le monde puisse lire pour comprendre qu'on peut aller déposer plainte, qu'on peut dire ce qui nous est arrivé, qu'on peut se souvenir d'une odeur de parfum, qu'on peut se souvenir de la musique qui passait ou du vent qui passait dans les feuilles par la fenêtre pendant qu'on vivait notre agression, mais qu'on puisse en même temps ne pas se souvenir du visage de l'agresseur, ni quel jour on était, ce genre de choses. Ça peut aussi aider à faire comprendre pourquoi parfois un an, 6 ans, 10 ans ou 2 heures après, il y a un souvenir qui revient. Elle voit qu'elle va perdre, donc elle vient rajouter des éléments. Pas du tout. Il y a des levées d'amnésie traumatique qui se font. Et ça, c'est étudié, c'est prouvé, il y a la littérature là-dessus. Donc je pense que ça, c'est vraiment un gros obstacle auquel on est confronté, cette méconnaissance. J'irais même plus loin, l'illusion de la connaissance. Parce qu'on se retrouve parfois face à certaines personnes qui s'imaginent savoir et qui ne sont pas forcément dans l'échange par rapport à tout ça. Et ça peut porter préjudice aux victimes et ben forcément on n'aime pas ça. Alors, je ne sais pas si le parallèle il est judicieux ou pas. Il est vrai que, parce qu'en même temps, la lanterne est de plus en plus connue. Là, voilà, on était sur Morlaix, Morlaix-Écho. On va maintenant être aussi sur les pays de l'Andy. Enfin voilà, c'est... Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est le fait que l'assaut soit plus connu et grandisse ou si c'est justement cette montée là, du masculinisme. Mais effectivement, je suis plus souvent alpaguée. Alors ça peut être des trucs un petit peu pas bien graves et puis qui finissent par me faire sourire. C'est-à-dire, je vois bien que les gens, vous savez, ils fouillent sur les réseaux sociaux. Ils regardent et puis ils ne font pas gaffe, ils font une demande d'amis. Et puis moi, j'ai tout le temps mon téléphone en main, puisque la ligne, elle est ouverte 24-24, donc je vois, je screen, et après je vais voir qui c'est. Et en général, ce ne sont pas des gentils. Donc voilà, ils fouinent. Il m'est arrivé d'être poursuivi en voiture. Ouais. Et il m'arrive par contre fréquemment, là, depuis quelques temps, des messieurs très courageux qui me téléphonent en anonyme, à des heures indues, en me reprochant d'avoir séparé un père de ses enfants, etc. Donc je leur propose un échange. Et qu'on mette les choses à plat et qu'on voit calmement ce qui se passe, parce que après tout, l'échange et la communication sont la clé. Et sauf que non, bien sûr, on refuse de donner un nom, on refuse de. Donc je pointe juste du doigt le fait qu'ils sont pas très courageux, qu'ils m'appellent en anonyme et que moi je proposais juste une rencontre. Mais oui, effectivement, je reçois beaucoup d'appels et de choses comme ça. Ouais. Les coordonnées de l'assaut, la lanterne. En fait, alors tout le monde dit la lanterne violette, effectivement. C'est très bien, comme ça on nous reconnaît mieux. À la base, on s'appelle la lanterne. La lanterne violette, c'est le mail. Voilà, je pense que c'est associé au fait que ce soit couleur violet. Mais on nous trouve sur Facebook, on nous trouve sur Insta. Là, les jeunes bénévoles ont créé un compte TikTok pour quand on fait des événements. Bah oui, c'est générationnel, donc il faut vraiment qu'on puisse parler à tout le monde. Il y a un numéro de téléphone, enfin deux, parce qu'il y a aussi une ligne d'astreinte. Ma ligne à moi, la ligne présidence, accompagnement, etc., c'est le 06 85 44 39 73. La ligne d'astreinte, c'est le 07 81 63 66 38. Sachant que quand on appelle un de ces deux numéros-là, si jamais on tombe sur le répondeur sur une des lignes, on peut appeler directement l'autre, il n'y a pas de souci. Voilà, le mail de l'association, qui est lalanterneviolette@gmail.com. Il y a toujours forcément le 3919, hein, qui a été pas mal secoué, je crois, ces temps-ci, justement par les mouvements masculinistes. Alors, le 3919, c'est une ligne d'écoute ou d'appel, selon qui est au bout du fil, qui est là pour les violences faites aux femmes. Voilà. Je pense que tout le monde a entendu parler dans l'actualité des flots d'appels qu'ils ont pour bloquer leurs standards téléphoniques.
C'est l'écho du silence. Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
On a un bel appartement qui est super chouette, qui est bien plus grand maintenant. Et ça, c'est vraiment bien. C'est un gros progrès. Ce que je disais tout à l'heure, qu'on avait pas mal de projets, etc. Et on fait déjà beaucoup de choses. On fait des groupes de parole, des ateliers. Le problème auquel on était confrontés, c'était comme on avait un petit deux pièces qui n'était pas forcément insonorisé. À titre d'exemple, moi, quand je recevais quelqu'un, il ne pouvait pas y avoir une activité dans la pièce d'à côté. Aujourd'hui, le local est assez grand, j'ai des portes qui coupent le son, donc je peux effectivement recevoir quelqu'un, on peut prendre notre temps, échanger. Toujours devant un petit café ou un petit thé, c'est important. Et puis, il peut y avoir dans la pièce qui fait et salon d'accueil, et puis on a aussi une grande table où on peut faire des ateliers. On a créé là une bibliothèque où Alors, pour les bénévoles, j'en ai une qui est plus en retrait parce que toutes les lectures ne sont pas à mettre entre toutes les mains, forcément. Mais une bibliothèque qui commence à être bien fournie, à disposition des bénéficiaires. Elles peuvent, soit après un rendez-vous, prendre un bouquin, le ramener chez elles. Elles peuvent, si elles veulent, venir juste à la lanterne, se servir dans le salon d'attente, leur petit thé, leur petit café, bouquiner, rencontrer d'autres personnes pour discuter. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter, en fait, si même si quelqu'une ou quelqu'un, puisqu'on reçoit maintenant, depuis 2 ans, les mineurs sans distinction de genre, si quelqu'un ou quelqu'une a envie de venir voir le local, pointer son nez, prendre un bouquin, boire un thé, un café, il suffit de m'envoyer un petit message sur le numéro que j'ai donné tout à l'heure, donc mon numéro à moi, et de voir s'il y a quelqu'un de présent ou pas, et la porte sera ouverte, hein, avec plaisir.
Mais quelle générosité! Nathalie est prête à vous accueillir chaleureusement, alors surtout n'hésitez pas à lui rendre visite. Juste avant d'écouter le témoignage de Flore, écoutons le coup de gueule de la fondatrice de la Lanterne.
Mon coup de gueule, c'est le même que beaucoup. Hein, je ne suis pas contente parce qu'on est toujours dans la banalisation des violences psychologiques. En fait. Et on parle beaucoup des coups, de l'emprise, de la peur, de la dévalorisation, des contrôles qui détruisent. Mais même quand il y a tout ça, s'il n'y a pas les coups, mais même les victimes viennent me voir en disant « Bah oui, mais moi, j'ai pas été frappée. » Ou... C'est tout aussi violent. C'est tout aussi violent. Souvent, l'un ne va pas sans l'autre, hein, on ne va pas se mentir. Mais il y a des femmes qui vont être dans des contrôles coercitifs comme ça pendant des années et qui arrivent dans un état psychologique de détresse absolue. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment dur, mais je disais ça tout à l'heure, en France, la santé mentale, elle n'est pas encore... On chemine, hein, on avance, mais on rame quand même, quoi. Donc voilà, je suis aussi contre l'idée qu'il faudrait être une bonne victime pour être crue. Parce qu'une victime, elle est souvent ambivalente, elle est souvent fatiguée, elle est souvent contradictoire, mais c'est normal en fait. C'est normal et je pense que c'est à la société d'apprendre à écouter sans juger. La violence, c'est pas normal, en fait. On peut pas normaliser la violence. Il faut vraiment, mais dès la petite enfance, il faut vraiment qu'on tienne compte. Enfin, moi, il y a quelques semaines encore, j'entendais une femme dire « Non, mais moi, une gifle, ça a jamais tué... » Bah si, bien sûr. Non, c'est inacceptable. On est en France, il y a des lois, on les respecte. Point. Là, je suis un petit peu moins rigolote quand je le dis, mais c'est une vérité. Et puis, nos enfants... Oui, bien sûr, on leur apprend la politesse. Hein. On leur apprend à dire bonjour, merci, au revoir. On ne leur apprend pas à être obligé d'embrasser quelqu'un pour dire bonjour. On leur demande, est-ce que je peux te faire un bisou? Est-ce que je peux te faire un câlin? Est-ce que... Enfin, voilà. On leur apprend, dès la toute petite enfance, à respecter leur corps. Donc, voilà. La violence, elle n'est jamais normale. Elle commence de façon trop banale, j'ai envie de dire. Et après, il y a toute une éducation, des choses qui vont aller s'enchaîner là-dessus et faire qu'on tolère des gestes qui n'ont pas à être tolérés. Donc voilà, elle n'est jamais banale, elle n'est jamais méritée. Et demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage. Alors bravo.
C'est l'écho du silence.
Écho du silence.
Nathalie a pu éclairer nos lanternes en conseillant aux femmes et aux minorités de genre de demander de l'aide. À présent, écoutons le témoignage de Flore.
Bonjour, moi c'est Flore, j'ai 28 ans et je suis une bénéficiaire de l'association La Lanterne à Morlaix. J'ai connu la lanterne violette quand je suis arrivée dans la région de Morlaix il y a 3 mois suite à des violences conjugales où j'ai dû faire un dépôt de plainte à la gendarmerie et c'est eux qui m'ont parlé de l'association, qui m'ont poussé à faire le premier pas pour m'aider à en parler. Elle m'a apporté beaucoup, surtout au niveau moral, parce que c'est pas évident d'en parler avec la famille, tout ça. Donc d'avoir un œil professionnel sur la situation, c'est un gros soutien quand même. Ça m'a beaucoup apporté. Tout de suite, Nathalie, c'est elle qui m'a suivie depuis le début. C'est quand même un peu avancé beaucoup sur le moral, le soutien moral. Elle m'a aidé à faire les démarches pour trouver un logement. Maintenant, j'ai un logement, donc tout va bien, le moral. Tout se passe bien. Mon parcours de guérison, pour l'instant, il n'est pas encore au complet. Pour l'instant, c'est vraiment plus un peu apprendre à vivre avec ce qui m'est arrivé. Parce qu'il y a encore j'ai encore des souvenirs, ça. Au bout de 3 mois, ça part pas comme ça. J'ai encore des petites choses physiquement qui font que quand je me vois, j'ai toujours une petite pensée à ça, mais je préfère les garder dans le sens où je sais ce que je veux plus. Je sais que j'ai pas envie de me retrouver encore avec telle ou telle chose, que ce soit sur le visage ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Je me dis que c'est des choses que j'ai eues et que maintenant j'ai plus envie d'avoir. Donc, à chaque fois que je me regarde, au final, c'est plus une force qu'autre chose. C'est en majoritaire partie grâce à eux, parce que c'est eux qui ont réussi à vraiment me sortir de là. Sinon, c'était un cercle qui durait depuis 1 an et demi et que j'arrivais pas à m'en sortir. Donc, grâce à eux, j'ai réussi à m'en sortir, plus les aides à côté. En ma vie actuellement, moi, le parfait, hein, j'ai tout ce que je veux, j'ai un logement, j'ai un travail. J'ai tout trouvé ça rapidement. J'ai mon chat avec moi. Mais non, franchement, je fais ce que je veux quand je veux. Je vis bien maintenant, je suis bien. Fier de moi déjà. C'est la première chose d'avoir réussi à avoir tout ce que je voulais en si peu de temps. Parce que j'avais peur avec le temps que si j'arrive pas à trouver un travail, j'arrive pas à trouver un logement, qu'au final je finis par repartir dans des mauvaises directions, et comme j'ai tout trouvé et que tout va bien pour moi, je suis fière de moi.
Bravo.
Dans 2-3 ans, comme je viens d'arriver sur la région, le temps de voir, mais sinon, c'est trouver un endroit où je suis bien, pouvoir investir un peu, avoir ma maison à moi, arrêter d'avoir des loyers, des si, ma maison, partir en voyage.
Flore a de beaux projets en perspective et nous voulions aussi savoir ce qu'elle dirait à la Flore du passé.
Je lui dirais que elle devrait penser à elle, partir, arrêter de vouloir sauver une personne qui en vaut pas la peine, de vouloir faire changer des personnes alors que au final il faut penser à soi. Enfin c'est ça, je lui dirais de penser à elle. On n'a qu'une vie, hein.
Flore souligne ici un point important, le fait qu'il ne faut pas s'oublier dans une relation. D'ailleurs, en parlant de relation, nous lui avons demandé en tant que proche comment est-ce qu'on peut aider une femme victime de violence.
Déjà, commencer en lui en parler, mais sans dénigrer la personne avec qui elle est. Lui faire comprendre les choses, ce qui va pas dans son couple, mais pousser un peu plus sur ce qui va pas dans son couple. Mais en dénigrant la personne, si c'est, par exemple, si elle dénigre son conjoint, que comme c'est un cercle vicieux, comme je disais, peut-être qu'elle risque de se braquer et de se mettre du côté de son conjoint qui est violent, plutôt que d'écouter sa famille. Moi, je dis ça parce que c'est ce qui m'est arrivé. Et j'ai caché une personne avec qui j'étais pendant 6 mois. Je cachais à ma famille que j'étais retournée avec pour pas les inquiéter et de mon côté, pas avoir de reproches. Donc, vraiment de faire comprendre aux personnes que c'est pas bon, il faut s'éloigner, il faut se faire aider, quoi. Mmh. Entre famille et amis, c'est plus compliqué. Ça, faut pas culpabiliser, sinon ça risque de la stopper net.
Comme pour Nathalie, nous avons demandé à Flore si elle avait un message à faire passer.
En soi, que les personnes qui ont été victimes de violences ou les familles des personnes victimes de violences, c'est qu'il faut se faire aider. Il faut pas rester dans un cercle vicieux comme ça parce que c'est compliqué. Il faut vraiment aller voir des professionnels parce que la famille en soi, ils vont nous aider, mais d'un côté, ça sera un peu malsain parce que ça sera des reproches. Je te l'avais déjà dit, je t'avais dit ça, j'ai vu si. Donc c'est vraiment mieux d'aller vers des associations, tout ça.
Flore reconfirme les dires de Nathalie. Si vous subissez des violences, essayez vraiment de vous faire aider par des associations comme La Lanterne. La fin de l'épisode approche brutalement, donc juste avant, nous voulons absolument savoir ce qu'il y a à retenir de cet échange.
Ben, je dirais, en soi, aux personnes qui ont été comme moi, qui ont vécu des mauvaises choses comme moi, d'apprendre à être égoïste, mais dans le bon sens. Penser à soi, penser à son bien-être, se faire plaisir si on a envie, arrêter de dépendre des gens. Mmh. Et surtout, apprendre à dire non, c'est le plus important. Et c'est ce que j'ai appris à La Lanterne.
Ouais, La Lanterne, on apprend aux gens à être égoïste.
Soyez égoïste.
Ouais, voilà, c'est ça l'expression, l'égoïsme positif.
Écho du silence. Écho du silence. Écho du silence.
C'est la fin de cette émission sur les violences faites aux femmes. Merci à Flore et à Nathalie de nous avoir partagé leur parcours et leur savoir. C'était un réel plaisir de les écouter. Vous pouvez contacter La Lanterne au 06 85 44 39 73 ou au 07 81 63 66 38 ou bien via le mail lalanterneviolette@gmail.com et même via leurs réseaux sociaux. Retrouvez aussi tous les épisodes du podcast sur le site de Radio U et sur toutes les plateformes de streaming. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. C'était L'écho du silence.